Troisième partie, Cendres et fantômes. Libby Cogan alla trouver l'infirmière-major pour solliciter un congé d'une semaine, sous prétexte que sa vieille mère, qui habitait dans le Sussex, venait de tomber gravement malade. Amy éprouvait quelques scrupules à entraîner la pauvre fille dans une aventure qui risquait de mal tourner. Toutefois, elle n'avait pas le choix. Elle ne connaissait personne, ne disposait d'aucun véhicule et ignorait tout du monde extérieur. En outre, elle n'avait pas d'identité officielle, ce qui, en cas de contrôle, risquait de lui attirer la suspicion des autorités. Libby se débrouilla pour obtenir d'un médecin débordé, qui l'écouta d'une oreille et signa ce qu'elle voulut, un certificat l'autorisant à véhiculer à travers le pays une malade frappée d'amnésie. Cette promenade thérapeutique ayant pour fonction d'amener la dite patiente à retrouver la mémoire. « Ce n'est qu'un bout de papier, soupira la grosse fille, mais il clouera le bec au petit curieux en uniforme qui pourrait nous contrôler. » Après avoir hésité entre différents états, stupeur, angoisse, incrédulité, refus catégorique, elle semblait en définitive excitée par cette excursion qui l'arrachait à la routine de l'hôpital. Il se passe enfin quelque chose dans sa vie, songea Amy. Elle a beau souffrir du vertige, elle ne peut s'empêcher de se pencher au-dessus du gouffre. Les deux femmes prirent la route à l'aube, dans une voiture délabrée dont Amy aurait été incapable de préciser la marque. Libby conduisait vite et bien. Elles n'eurent pas longtemps à sortir de Londres. Amy fut étonnée de constater avec quelle rapidité le paysage urbain se déplace à la campagne. Bientôt, la petite auto roula au milieu des champs noyés de brume. Au bout d'un moment, Libby s'arrêta pour étudier la carte. Elle fronça les sourcils. « C'est embêtant, marmonna-t-elle. Ton truc, ton château en ruine, il est situé au milieu d'une zone interdite à la circulation. » « Qu'est-ce que c'est, une zone interdite ?»« C'est comme une scène de théâtre. Figure-toi que le gouvernement a imaginé de bâtir de fausses usines à la campagne pour amener les bombardiers Bosch à s'éloigner de Londres. Des équipes d'ouvriers travaillent nuit et jour pour fabriquer des bâtiments factices qui, vus du ciel, ont l'air d'industries lourdes besognant férocement pour l'effort de guerre. En réalité, ce sont de simples baraques en planches au milieu de quoi on a planté des tuyaux géants pour imiter des cheminées de hauts fourneaux. Tout ça est relié à une chaudière où l'on enfourne de vieux pneus. Ces saletés brûlent en répandant une fumée noire visible à des kilomètres à la ronde. Tu veux dire qu'ils ont bâti des leurres géants? Oui, comme dans les décors du cinéma. Tu vois. Du haut du ciel, ça crée l'illusion, mais d'en bas, ce ne sont que des charpentes recouvertes de panneaux de bois peinturlurés. Et ça fonctionne? Oui, c'est ça l'ennui. Les Boches se sont mis à bombarder les fausses usines, si bien que la campagne est criblée de cratères d'explosion. Si l'on pénètre à l'intérieur de ce périmètre, on risque de finir en chair à pâté.
Je ne veux pas te faire courir ce risque. Tu n'auras qu'à me déposer à la lisière de la zone interdite. Je continuerai seule, à pied, avec la carte. Libby prit une expression boudeuse. Pas question, siffla-t-elle. Je ne vais pas te lâcher au beau milieu des bois. Tu es ma malade à présent. Je dois veiller sur toi. Et elle remit le contact. Elles durent bientôt se résoudre à circuler entre deux haies de barbelés qui condamnaient l'accès aux champs bordant la route. Derrière ces enchevêtrements de fils de fer se dressaient les masses confuses d'importants bâtiments hérissés de hautes cheminées. Grâce au brouillard, l'illusion était parfaite. Seul le silence régnant sur les lieux trahissait la véritable nature des installations. Amy nota également la présence de nombreux camions garés aux abords de l'usine. « Tout est en bois », l'avertit sa compagne. De temps à autre, les types les changent de place, au cas où les Boches feraient des photos aériennes. Seuls les camions qui amènent les vieux pneus sont réels. Ils utilisent aussi des ballots de chiffon imbibés d'huile de vidange. Quand tout ça flambe, Ça pue comme l'enfer, et le ciel est noir de fumée. C'est le but de la main-d'œuvre. Faire croire que les usines tournent nuit et jour pour fabriquer des avions, des chars, des canons.
Amy hocha la tête. Maintenant que le fog se dissipait, elle distinguait mieux le décor qui l'entourait. Elle fut gagnée par un sentiment d'irréalité, un peu comme si elle se promenait à Hollywood, au studio de la Warner, dans l'une de ces villes de carton-pâte où les acteurs ont l'habitude d'évoluer. Les faux camions avaient l'air de gros jouets, posés là à l'intention d'un enfant géant qui allait s'en servir d'une minute à l'autre en faisant vroom-vroom avec la bouche.
Elle s'ébroua. Elle devait se méfier de sa propension à décoller du réel. « Tiens !» lança Libby d'une voix sourde. « Regarde un peu les cratères d'explosion. Tu vois que je n'exagérais pas. » Amy se pencha à la portière. Les terrains environnants étaient effectivement criblés d'énormes entonnoirs, témoignant du pilonnage intensif des bombardiers. « Quand ils touchent la fausse usine, on la reconstruit dans la nuit !» gloussa la grosse fille. « Ça les rend dingues, ils n'y comprennent rien. Ils s'imaginent avoir raté leur cible, et ils recommencent. Voilà pourquoi le coin est dangereux. C'est comme si nous nous promenions sur une enclume pendant qu'un forgeron tape sur un fer à cheval. » Amy nota qu'on avait poussé le souci de mise en scène jusqu'à disposer des canons de carnaval à l'arrière d'un énorme camion, comme si ce matériel, sorti flambant neuf des chaînes d'assemblage, allait être livré d'une heure à l'autre.
Au même moment, deux soldats sortirent de la brume et firent signe à la voiture de s'arrêter.
« Picabou !» grogna Libby. « Ils vont sûrement nous demander de faire demi-tour. » Le visage bougon des militaires s'éclaira en découvrant que la voiture abritait des femmes. Libby s'empressa de brandir le sauf-conduit. « Faut pas traîner dans le coin, dit le plus âgé des hommes. C'est un vrai tir au pigeon par ici. Quand ça se met à tomber, il n'y a aucun endroit où on soit vraiment en sécurité. » « Mais vous, s'inquiéta Amy, où vous retranchez-vous ? »
« On a des abris souterrains, mademoiselle, grogna le Troufion. Mais je ne vous inviterai pas à y passer la nuit, toute mignonne que vous êtes. C'est pas un endroit pour une jolie fille. Quand les Boches bombardent, on a l'impression qu'on va être enterré vivant d'une seconde à l'autre. Ça vous met pas le cœur à la bagatelle, si vous voyez ce que je veux dire. » Au vrai, il semblait plutôt nerveux et ne pouvait s'empêcher de jeter de brefs coups d'œil en l'air pour surveiller les nuages. « C'est la fille du général Endicott, Montilibi. Elle a été blessée à Londres, je la ramène dans sa famille. » Les soldats échangèrent un regard perplexe. Ils avaient manifestement hâte de regagner le bunker. « C'est une très mauvaise idée d'emprunter cette route, » lâcha celui qui n'avait pas encore ouvert la bouche. « Le mieux, c'est de bifurquer au premier tournant et de repartir vers Mollington. C'est plus long, mais plus sûr. Évitez de longer la zone interdite. Les bombes ne tombent pas systématiquement à l'intérieur des barbelés. Les Boches arrosent large. » Ayant remercié les deux hommes d'un charmant sourire, Libby lança le moteur pour s'éloigner au plus vite du checkpoint. « Que fait-on ? » questionna l'infirmière. « Fais semblant d'obéir, » murmura Amy. « On cachera la voiture dans un bosquet, puis on se glissera sous les barbelés. Je ne peux pas faire autrement. Ashdown est au milieu de la zone bombardée. Encore une fois, je ne te force pas à me suivre. Ce sera dangereux et cette histoire ne regarde que moi. Je t'ai déjà dit ce que j'en pensais, grommela Libby. Je ne te lâcherai pas. »
Assez de scrupules inutiles, souffla une détestable petite voix dans l'esprit d'Amy. Sers-toi d'elle. Sers-toi d'elle comme d'un outil. C'est ce qu'on t'a enseigné. Cette fille est folle de toi. Utilise-la au mieux de tes intérêts. » La jeune femme se passa la main sur le front, comme si ce simple geste allait faire taire ce fantôme émergeant d'un passé qui lui faisait peur. Elle avait soudain l'impression d'avoir grandi au sein d'une meute de prédateurs s'appliquant à dresser leurs petits au carnage. Elle se faisait horreur, elle se faisait honte. Elles roulèrent en silence une demi-heure durant. La barrière de barbelés s'étirait interminablement au long de la route. Çà et là se dressaient de fausses usines, des centrales électriques qui fleuraient encore la sueur fraîche. On avait fabriqué une banlieue industrielle de pacotille, surgie de terre par la magie d'une poignée de décorateurs de cinéma réquisitionnés pour la circonstance. Seul, l'aîné de DCA, entouré de sacs de sable, était bien réel. Au premier carrefour, Libby s'assura que personne ne pouvait les voir et quitta la chaussée afin d'engager la voiture sous les arbres. Elle s'enfonça au cœur du Bocteau de manière qu'on ne puisse repérer le véhicule depuis la route, puis coupa le contact. « Bon, soupira-t-elle, on y est. Que veux-tu faire ? Il faut passer sous les barbelés et traverser la zone interdite sans être vu. » expliqua Amy en traçant une ligne sur la carte du bout de l'index. « Le mieux est d'aller jusqu'à ce village, Onsgate, et d'y passer la nuit. Dès le jour levé, on prendra la direction d'Ashden. » « Combien de kilomètres jusqu'au village ?»« 10, à vol d'oiseau. À travers bois, ça nous paraîtra plus long. Mettons-nous en marche dès maintenant, ou nous risquons d'être surprises par l'obscurité au milieu de la forêt. » Libby sortit pesamment du véhicule. L'escapade ne l'enthousiasmait guère, mais elle s'entêtait. Peut-être craignait-elle, si elle laissait Amy s'en aller seule, de ne plus la revoir. Elle ouvrit le coffre, en tira une musette de Boy Scout contenant le ravitaillement. « Allons-y, fit-elle. J'aimerais bien être sortie de cette foutue zone quand les Boches s'amèneront pour larguer leurs bombes. » Amy se glissa sous les barbelés et aida sa compagne à en faire autant. Aussitôt, la forêt se referma sur elle, humide, bruissante. Aucun oiseau ne chantait. Les bombardements quotidiens les avaient fait fuir. Le brouillard stagnait au ras du sol, si épais que les deux jeunes femmes ne pouvaient distinguer leurs souliers. Amy resserra les pans de son imperméable. Elle avait beau afficher un flegme des plus britanniques, cette forêt morte l'impressionnait. Entre les arbres, elle distinguait les cratères calcinés trouant la plaine. Les bois eux-mêmes n'avaient pas été épargnés. Les explosions y avaient creusé de larges clairières hérissées de moignons noircis, de souches à demi sorties de terre. Des centaines de troncs carbonisés dressaient leurs totems funéraires au milieu d'un tapis de cendres qui s'envolait à chaque pas. L'odeur chimique des explosions continua à planer sur les lieux, imprégnant tout. Les promeneuses perdirent beaucoup de temps à contourner les trous de bombes et le fouillis impénétrable des arbres abattus. La cendre leur desséchait la gorge. Elles durent s'arrêter pour boire. « On ne s'en sortira jamais, » halta Libby, sa grosse figure barbouillée de sueur et de suie. « Si on se fait piquer par une patrouille, on est fichu. On n'aura aucune excuse valable. » Elle avait raison. Elles étaient désormais trop engagées à l'intérieur du territoire interdit pour prétendre s'être égarées. Amy ne répondit pas. Sans boussole, elle avait peur de tourner en rond. Enfin, alors qu'elle commençait à perdre espoir, un panneau de bois se matérialisa au détour d'un chemin. « Homes Gates, 2 miles. » « Courage, souffla-t-elle, on y est presque. » Il serait temps, gémit sa compagne, la nuit commence à tomber. Si j'allume la torche, les troufions nous repéreront à 10 kilomètres. Elle ne savait plus depuis combien d'heures elle marchait, d'un pas obstiné, le front baissé, la bouche et les narines pleines de cendres. Le chemin les mena hors de la forêt jusqu'aux masures en ruine d'un village. Là aussi, tout avait brûlé. Il n'y avait plus un toit intact, seulement des pans de maçonnerie charbonneux, dressés comme des stèles. Le jour baissait rapidement. Les jeunes femmes n'avaient plus le temps de visiter les bâtisses dans l'espoir de trouver un logis convenable. Elles entrèrent dans la première bicoque venue et Amy vérifia que les poutres du plafond tenaient bon. Dans ce qui avait été une salle commune, elles trouvèrent une table de ferme, des sièges. Le vent avait installé un tapis de feuilles mortes sur le sol. La mousse recouvrait déjà les pieds de la table. Çà et là, des objets usuels subsistaient, à l'endroit même où on les avait abandonnés le jour de la catastrophe. Une grosse théière familiale en émail rouge, des bols, des assiettes à porridge encore remplies d'une pourriture grisâtre. Elles s'assirent, les jambes rompues. Inutile d'aller plus loin, décida Amy. On risquerait de se perdre. Essayons de dormir. Son instinct lui soufflait qu'elle avait l'habitude de ces campements de hasard et qu'elle n'était nullement novice en ces sortes d'expéditions. Comme les soldats, elle avait appris à survivre sur le terrain, tirant parti du moindre avantage. Elle s'installa du mieux possible et ferma les yeux, tandis que Libby s'agitait, faisant grincer son siège. Pourquoi ce village a-t-il été détruit ? Se demanda-t-elle. De toute évidence, il n'a pas été touché par une bombe, car il ne présente aucun cratère d'explosion. L'incendie qui l'a ravagé est donc antérieur à l'installation de la zone interdite. Ashdon a brûlé, Wansgate également. Une malédiction pèserait-elle sur ces bois ? Elle chassa cette pensée et se laissa glisser dans le sommeil. Elle dormait depuis 10 minutes quand le mugissement d'une sirène d'alarme éclata sur la plaine, l'éveillant en sursaut. « Ça y est !» halta Libby du fond de l'obscurité. « Les Allemands arrivent, ils viennent bombarder la zone industrielle. Si le vent pousse l'une de leurs bombes de ce côté, on est fichu. » Elles se figèrent, l'oreille tendue, guettant le grondement bien connu des moteurs. Au sol, des projecteurs s'allumèrent, fouillant les nuages. Puis, la DCA commença à tirer. « C'est pour la frime, » expliqua la grosse fille. « Il serait invraisemblable que de pareilles installations ne soient pas protégées. Il faut donc faire semblant de les défendre. Tu piges ?» Elle parlait d'une voix que la peur rendait aiguë. Enfin, le largage commença et la terre se mit à trembler. Amy ouvrit la bouche et s'enfonça les index dans les oreilles pour protéger ses tympans. En lisière de la forêt, des arbres s'écroulaient, fauchés par le souffle des déflagrations. Par instants, la luminosité des explosions repoussait les ténèbres, installant le jour en pleine nuit. Amy s'appliquait à conserver son calme. Tout autour d'elle, la vieille bâtisse craquait, grinçait, hésitant à s'effondrer. Le chaos parut durer une éternité. Puis le calme revint. À la lueur des explosions succéda celle des incendies, qui ne dura pas, puisqu'il était plus facile d'éteindre un décor en feu qu'une usine à gaz. Épuisées par la tension nerveuse, les jeunes femmes basculèrent dans le sommeil sans même en avoir conscience. Le froid réveilla Amy à l'aurore. L'humidité de la forêt transperçait ses vêtements. Libby ronflotait, tassée entre les bras d'un fauteuil vermoulu. Amy se leva en grimaçant, sous l'assaut des courbatures, et sortit des ruines pour examiner le village à la lueur du jour. Elle dénombra une douzaine de maisons, pour la plupart effondrées. Des ronces avaient poussé dans les rues. Le lierre avait recouvert les façades noircies. Dans quelques années, la végétation aurait complètement digéré Wansgate. La jeune femme fit 3 pas dans la grande rue. Des bancards subsistaient, çà et là, des enseignes de bois à l'ancienne que le feu avait épargnées. Elle identifia un pub, au bûcher des sorcières, une forge, une épicerie. À l'intérieur des masures dédaignées par les flammes, des meubles achevaient de se couvrir de mousse ou de moisissures. Des vêtements, pendus à des patères, pourrissaient. Chaque fois qu'elle se penchait dans l'encadrement d'une fenêtre, Amy provoquait la fuite d'un rongeur. Persuadée de visiter un hameau fantôme, elle faillit pousser un hurlement lorsqu'au détour d'une ruelle, elle se trouva nez à nez avec un vieillard courtois, enveloppé dans une pelisse de berger. Ses cheveux blancs flottaient sur ses épaules, sa barbe tombait sur sa poitrine, Il avait l'air d'un ermite surgi d'une gravure du XVIIIe siècle. Un chien arthritique le suivait en haletant, l'œil gauche couvert d'une taie blanche. « Nous nous sommes égarés dans la forêt, » improvisa Ami. « Le bombardement nous a affolés. Mon ami a perdu le contrôle de la voiture, nous avons versé dans le fossé. »